dream, her dream.
Peu importe quoi que ce soit, moi je vois une radio dans ma rue, j'ai qu'à ouvrir ma fenêtre tous les jours pour voir ce qui s'y passe. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. C'est l'aberration démocratique.
Performing Grammy nominated album El Dorado, here is Marcus King.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif, donc c'est Amnesty International.
On a chanté la musique, hein. Ouh, c'était
non,
dur.
Non, c'est, on a laissé le générique, hein, voilà. Et puis, pour notre première émission, tu m'as troublé du coup. Pour notre première émission du mois d'avril. Effectivement, puisqu'on est le 14 avril.
Et 14 avril, un jour célèbre.
Oui, pardon.
C'est son anniversaire.
Ne dévoile pas, vous entendez.
Oh, c'est déjà dit.
Vous entendez Edith qui est dans le studio avec moi et qui dit effectivement que c'est mon anniversaire aujourd'hui.
Ah voilà,
oui, c'est
quand
mon
même.
Anniversaire. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est sur l'antenne de Principe Actif, c'est pour parler de la promotion et de la défense des droits humains. Et donc, on va commencer l'émission pour tous les auditeurs et auditrices qui se sont peut-être.
Et les spectateurs, les futurs spectateurs.
Les spectateurs, oui, qui sont peut-être venus au cinéma jeudi dernier, le 8, pour voir la projection débat qu'on avait annoncée du film.
Tout
va bien, c'est ça. Et donc, on était bien présents au cinéma, sauf que, à peu près une bonne demi-heure avant le début de la projection, panne d'électricité générale dans le cinéma.
Dans le secteur,
et dans, plus, le, et dans le quartier. Dans le secteur aussi. Donc, absolument impossible de maintenir la projection de débat sans électricité. Et d'ailleurs, les spectateurs qui étaient présents dans les autres salles pour voir les autres films ont été gentiment priés de sortir. Donc, les portes du cinéma ont été fermées à partir de 19h. Et donc, la séance a été purement et simplement annulée. Bon, la direction du cinéma s'est excusée auprès de nous. Malheureusement, ils y sont pour rien et nous non plus. Mais on va la reprogrammer, rester à l'écoute de la prochaine émission. On va la reprogrammer très vite avec le cinéma. Et on va trouver une nouvelle
date. Ça sera après les vacances.
Ce sera après les vacances de Pâques, de toute façon. Voilà. Les vacances scolaires de Pâques, donc après le 27 avril.
Ouais, voilà. Et pour les gens qui regardent les dates, c'était le 9. Jeudi 9, tu as dit 8.
Jeudi 9, pardon.
Voilà,
jeudi 9,
parce qu'après, ça peut perturber des gens, quand même.
Voilà. Et donc, oui, c'était jeudi 9. Et donc, voilà, ça fait partie des impondérables.
Ben, c'est la première fois, là, oui. Franchement, une panne de courant au cinéma. Moi, j'avais jamais vécu ça. C'est voilà, ça. C'est une première. C'est et ça. C'est dommage que ça soit le soir où on allait avoir notre débat avec les gens de RESF et vous montrer un film documentaire sûrement passionnant.
Et quand on a dû quitter les lieux, la direction du cinéma nous a dit qu'ils allaient, parce que l'électricité était revenue, mais qu'ils devaient relancer toutes les machines et qu'ils allaient peut-être faire des séances à 22h, mais ce n'était pas sûr. Voilà. En tout cas, la nôtre était définitivement à l'eau. Donc voilà. Et c'est une façon de commencer l'émission un peu particulière, mais bon, on tenait à vous le dire.
Non, mais on va vous donner vite la date, vous allez voir, vous allez la voir sur les programmes du cinéma après les vacances et sans doute un jeudi, on va dire, sans doute un jeudi.
Tout à fait. Et moi, je voulais commencer l'émission, alors je vais vous parler d'un article qui est dans la chronique. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International. Donc, vous pouvez trouver le formulaire d'abonnement sur le site amnesty.fr. N'hésitez pas à vous abonner. C'est une excellente revue qui parle de droits humains, bien évidemment, et qui fourmille d'informations que vous n'entendez pas sur les grandes chaînes de radio ou de télévision. Et donc le Soudan, qui est le théâtre de guerre civile depuis des années et des années et des années, avec son lot d'horreurs, d'exécutions, de viols, de massacres, enfin, etc. Le refrain habituel, hélas. Comme dit Amnesty, effectivement, je vais vous lire la présentation de l'article. La guerre au Soudan est une guerre sans fin. Elle renaît sans cesse de ses cendres depuis plus de 20 ans. Une spirale de violence qualifiée par l'ONU de pire crise humanitaire et de déplacement au monde. Et voilà. Et si c'est la pire crise humanitaire, ce qui pose question, c'est qu'on n'entend pas beaucoup parler, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ces médias. Peut-être que c'est comme ça se passe en Afrique, ça ne les intéresse pas beaucoup. Alors juste un petit rappel de la chronologie. De 1955 à 1972, première guerre civile opposant le gouvernement central à la rébellion du Sud, aspirant à une autonomie. Un accord de paix a été signé en 1972. 1983-2005, deuxième guerre civile au Sud, qui s'étend du Kordofan du Sud au Nil Bleu. Accord de paix global en 2005. 1989, coup d'État d'Omar El-Béchir qui suspend la constitution et impose la charia, aggravant les tensions nord-sud. 2003, début de la guerre au Darfour. Ça, on a entendu parler, par contre, dans les médias de la guerre au Darfour à l'époque. 2009, la Cour pénale internationale émet un premier mandat d'arrêt contre Omar El-Béchir. Alors, il n'est pas précisé dans la chronologie, mais Omar El-Béchir a effectivement été arrêté et est maintenant en prison à la Cour pénale internationale, en attendant, si je ne m'abuse, de son jugement. 2011, indépendance du Soudan du Sud. Donc le pays est divisé en deux.
Et là, on a pu espérer un calme.
Oui, on a pu espérer un calme.
C'était le seul moment où on s'est dit peut-être que ça va s'arrêter.
Donc en 2019, chute du président El-Béchir après les manifestations massives. Transition menée par un gouvernement civilo-militaire, qui avait promis aussi un retour de la démocratie, qu'il n'a jamais appliqué. 2023, début de la guerre entre les forces d'armée soudanaises, dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les FSR du général Mohamed Hamdan Dago. Voilà. Et depuis, effectivement, cette guerre entre les deux, entre le président et son ancien premier ministre, la guerre civile ne s'est jamais arrêtée depuis et a fait effectivement des milliers de morts. Alors, vous trouverez dans la chronique, effectivement, plein d'illustrations avec des textes et des photos sur les principaux épisodes de ces événements absolument dramatiques. Bon, je vais pas vous les lire parce que ce serait pas du tout radiophonique. Mais par contre, en conclusion de cet article, il y a une interview très courte d'un chercheur d'Amnesty qui travaille sur ce pays. Et voilà ce qu'il dit. Question, parce que c'est une interview. Quels sont les principaux acteurs impliqués dans le conflit soudanais ? Les sept États limitrophes du Soudan participent directement ou indirectement à des transferts d'armes. Ces livraisons bénéficient soit aux forces armées soudanaises, FAS, qui contrôle l'est du pays, soit aux forces de soutien rapide, FSR, dominantes au Darfour et dans le sud-ouest. Des puissances plus éloignées alimentent également le conflit, à l'instar de l'Iran et de la Turquie qui soutient les FAS. La plupart des drones utilisés par l'armée soudanaise pour bombarder les civils sont d'origine turque, par exemple. De leur côté, les Émirats arabes unis apparaissent comme l'un des principaux appuis des FSR. Autre question, qu'est-ce qui motive ces ingérences étrangères ? Les ressources naturelles du Soudan, en particulier son or et son pétrole, suscitent des convoitises. Je réglais un petit peu le micro. Le contrôle des routes d'exportation constitue donc un levier décisif. Si la majorité des champs pétroliers se trouvent au Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, les hydrocarbures doivent transiter vers le nord, tenus par les forces d'armée soudanaises, pour être exportées. Quant aux régions du Darfour et du Kordofan, elles abritent un important couloir aurifère, donc des mines d'or, au cœur de multiples trafics transitant par la Libye et le Tchad. Tout indique que cet or est principalement exporté vers les Émirats arabes unis, soupçonnés de soutenir les FSR pour en sécuriser l'accès. Par ailleurs, outre ses intérêts économiques, plusieurs pays impliqués dans le conflit, Iran, Turquie, Émirats arabes unis, cherchent depuis plusieurs décennies à élargir leur influence en Afrique, notamment dans la Corne et le Soudan, situés entre la Libye méditerranéenne, la mer Rouge et l'Afrique subsaharienne, constituent un verrou stratégique. Autre question. Pourquoi les Émirats arabes unis sont-ils particulièrement ciblés par Amnesty International ? Leur responsabilité est majeure, tant par l'ampleur de leur soutien au FSR que par les pertes civiles faramineuses causées par celles-ci, surtout au cours des 10 derniers mois. Les Émirats leur fournissent armes, munitions et véhicules blindés, en violation de l'embargo onusien sur les armes en vigueur depuis 2004. Ils réexportent notamment du matériel militaire chinois, drones, obusiers, blindés, à partir de l'aéroport d'Amjaras, dans l'est du Tchad. Nous avons aussi documenté la présence du côté des FSR de blindés Émirats Nimr, que je ne connais pas, ce sont des arbres, équipés du système de protection français Galix, bouclier antimissile. Au-delà de ces transferts, il est établi que les mercenaires colombiens combattant aux côtés des FSR ont tous été recrutés par des entreprises émiraties. Les preuves d'ingérence émiratie dans le conflit soudanais forment un faisceau désormais irréfutable et considéré comme crédible par le panel des experts du Conseil des Nations Unies de l'ONU. Ceci étant, les Émirats sont très agressifs sur le plan diplomatique. Ils ont fait pression pour limiter les publications de preuves. On peut aussi s'étonner que le dernier rapport de ce panel d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU, publié en 2025 après la démission d'une experte, soit aussi court et dénué de détails ou d'annexes. Dernière question, comment sortir de cette impasse ? Sans pression diplomatique sur les États soutenant les belligérants, en particulier les Émirats arabes unis et la Turquie, aucune perspective de paix durable n'est envisageable. Il faut imposer des restrictions effectives dans les transferts d'armes, appeler les États à cesser toute coopération de défense avec les pays qui arment les parties au conflit et donner à l'ONU notamment les panels d'experts et la mission d'établissement des faits sur le Soudan, les moyens financiers, techniques et diplomatiques de mener et de publier ces enquêtes en toute indépendance. Voilà, où on apprend donc effectivement que cette guerre au Soudan qui n'en finit pas et les massacres de civils sont largement financés et armés par les Émirats Arabes Unis, la Turquie et même la France qui a livré effectivement du matériel
Russie
militaire.
Russie aussi, voilà. Enfin voilà, Égypte, enfin on a la totale.
Tout ça ne vous étonnera pas pour du pétrole et de l'or.
Des matières premières. Il y a deux rapports Amnesty hein, pour les gens qui veulent savoir plus. Là, un qui est sorti en novembre dernier. Quoi, donc, parce que malheureusement, c'est une histoire qui dure.
Oui, qui dure. Et encore une fois, ce sont les civils qui trinquent. Et on va changer de pays complètement, on va vous parler de l'Iran, mais pas sous l'aspect de l'agression des États-Unis contre le pays, contre l'Iran, mais sous l'aspect, mais c'est Edith qui va vous le dire.
Voilà, moi je vais vous parler d'une BD qui vient juste de sortir, elle est sortie le 9 avril, c'est une dessinatrice franco-iranienne, Bahareh Akrami, je ne sais pas si on fait la liaison. Et son dernier album, donc disponible le 9 avril, raconte le combat de Tomaj Saheli, un rappeur iranien traqué par le régime et figure de résistance en Iran. Alors, la chronique et Amnesty l'a rencontré. Donc, cette dessinatrice chronique en 2022. Sous le pseudo de Babou, elle chroniquait le procès des attentats parisiens du 13 novembre, dont elle est une rescapée. Le quotidien Libération lui consacre alors un portrait intitulé Dessiner les vivants. La formule doit lui sembler amère, tant la mort n'en finit pas de planer sur ses dessins. Alors, on va avoir aussi, c'est un peu comme Didier, il va y avoir une interview de cette personne et elle va raconter la naissance de ce récit alors que le peuple iranien survit sous les bombes. Comment avez-vous vécu la répression de janvier et les débuts de la guerre en Iran depuis la France ? La répression de janvier nous a mis un coup de massue. Nous y sommes familiers, mais personne ne s'attendait à une répression aussi violente. Les chiffres officiels parlent de 10 000 morts. Certaines organisations de 30 000. Le pays entier était en deuil avec un blackout total. Aucune information ne nous parvenait. C'était extrêmement angoissant. La guerre qui a débuté ce 28 février a ajouté du chaos au chaos. Le régime en sort renforcé, l'opposition largement affaiblie. Dans les prisons où se trouvent énormément d'opposants, les conditions sont désastreuses et catastrophiques. Et ces derniers jours, le régime a encore renforcé la répression. 3 manifestants ont été exécutés. Tout cela présage des temps toujours plus difficiles. Il y a énormément de coupures d'électricité, les prix augmentent, beaucoup n'ont plus accès aux soins de santé pourtant vitaux. Et en parallèle, la pollution due aux attaques contre les raffineries et les sites pétroliers fait craindre le pire pour la santé de la population. Les écoles, les facultés sont fermées et les enfants vivent avec le bruit des bombes au-dessus de leur tête. Sur place, malgré le blackout, certains utilisent les VPN pour recevoir des messages. C'est une technologie coûteuse et qui n'est pas maîtrisée par tout le monde, surtout les plus âgés. Cette fois, le blackout n'est pas total. On parvient à avoir quelques nouvelles de nos proches de manière sporadique, mais cela reste compliqué, car nous ne pouvons pas les contacter depuis l'étranger. Pour ma part, je n'ai de leurs nouvelles qu'indirectement. Une cousine en Allemagne s'occupe de faire le lien. Sur place, ils ont peur et ils sont très angoissés. Ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Une grande partie de ma famille vit à Ispahan et le 25 mars dernier, un marché a été frappé par un drone. Alors cette BD sur l'histoire du rappeur iranien Tomaj Saheli, pourquoi avoir choisi de raconter son histoire ? Tomaj incarne la résistance face au régime iranien. Il a été plusieurs fois arrêté, emprisonné et torturé pour sa mobilisation en faveur du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Il a aussi été condamné à mort par les autorités avant que sa peine ne soit finalement annulée grâce à la mobilisation internationale et l'action d'ONG. Après la répression de janvier, il a été l'une des rares voix de l'opposition à continuer d'alerter sur le sort des prisonniers politiques. Il n'a jamais cessé de se mobiliser. Par ailleurs, Thomas a travaillé très tôt en tant qu'ouvrier dans l'atelier de son père. Il n'appartient pas à cette jeunesse dorée issue des beaux quartiers de Téhéran. Il fait partie des classes moyennes et ouvrières d'Iran. Aujourd'hui, cette figure parle donc beaucoup à une partie de la jeunesse iranienne, celle qui est courageuse, connectée au monde et révoltée. Pour ma part, nous avons également un parcours de vie en commun. Nous venons de la même ville, Ispahan. Et là, le régionalisme s'est ancré dans la culture iranienne. Cela crée un lien fort avec lui. Par ailleurs, ses parents étaient des opposants. Ses deux oncles ont été tués par le régime. Cela fait aussi écho à ma propre histoire. Alors, comment avez-vous créé un lien avec Thomas au moment de créer la BD ? Je n'aurais jamais pensé pouvoir entrer directement en contact avec lui. Je ne voulais pas que ce projet mette sa sécurité en danger. Quand l'idée de cette BD m'est venue, je l'ai contacté. Et à ma grande surprise, il m'a répondu. De là est né un dialogue avec lui. Ses réponses étaient très succinctes, mais c'était déjà ça. Dans un premier temps, je l'ai questionné sur son enfance, puis j'ai posé des questions plus politiques. C'est à ce moment qu'il a arrêté de me répondre. J'ai donc prolongé la BD seule, et j'ai alors pensé à l'idée d'un dialogue fictif entre lui et moi. Je lui ai renvoyé un message pour la nouvelle année. Il m'a répondu par un vocal. J'ai reconnu sa voix. Je lui ai envoyé la BD finalisée peu après les massacres de janvier, quand le blackout a été levé. Il l'a beaucoup aimée et m'a promis de la partager lorsque cela serait opportun. Début février, j'ai découvert via un post Instagram qu'il avait été touché par plusieurs balles durant les mobilisations de janvier. Depuis, le nouveau blackout du 28 février, je n'ai plus de nouvelles de lui. Alors, cette BD, c'est aussi un moyen de résister et de lutter à côté des Iraniens. Ouais, Thomas, il pourrait quitter l'Iran, mais il a fait le choix de rester. Alors je m'interroge. Moi, j'ai quitté le pays avec mes parents. Je suis arrivée à l'âge de 3 ans, j'ai grandi, j'ai construit ma vie ici. Mes parents ont fait le choix de quitter l'Iran pour nous protéger. Alors aujourd'hui, je ressens une forte responsabilité vis-à-vis d'eux. Si nous n'avions pas été là, ils se seraient battus jusqu'à la mort en Iran pour défendre leurs idées. Je me dois de poursuivre leur combat. Pour moi, cette BD est une façon de relayer la voix de mes compatriotes et de poursuivre la lutte engagée par mes parents il y a près de 50 ans. Alors, plus personne parle de femme, vie, liberté. Pourtant, ce mouvement a profondément changé la société iranienne. Ce mouvement émancipateur nous a rendus fiers. Il a été un modèle pour le reste du monde parce qu'il s'agissait d'une révolution féministe portée par des femmes, mais aussi soutenue par les hommes. Les hommes ont compris que leur liberté passait par celle des femmes. De fait, beaucoup ont été exécutés pour avoir soutenu ce mouvement. Thomas l'incarne très bien. Il montre aussi qu'une autre voie est possible. Il porte un message d'espoir, d'union et de courage. Alors que les Iraniens viennent de subir une répression d'une extrême violence et sont aujourd'hui confrontés à la guerre, ce message est d'autant plus fort. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la communauté internationale aujourd'hui ? Sans accès à Internet, la population est privée d'informations essentielles pour se protéger. On ne sait pas où les bombes vont tomber, quelles zones sont ciblées, et il est impossible de communiquer. Il y a donc urgence à faire pression contre le régime iranien pour permettre le rétablissement d'Internet. Par ailleurs, ce n'est pas en détruisant un pays, en tuant les populations civiles, en rajoutant du chaos au chaos, que l'on se débarrassera de ce régime. Il faut mettre en place un cessez-feu rapidement pour que les bombes cessent. Enfin, la plupart des autorités, des opposants politiques sont aujourd'hui dans les prisons d'Iran. C'est le cas de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023. Et il est crucial de mettre une pression internationale pour permettre leur libération. Alors, Narges Mohammadi, on vous en a parlé, elle a été libérée, elle a été réemprisonnée en fin de cette année. Et là, moi, j'ai vu une info comme quoi elle a été retrouvée dans sa cellule, victime d'un AVC, donc on ne sait absolument pas son état de santé. J'ai juste finir, donc cette BD, comment vous dire, il faut absolument aller l'acheter. Et de ce que publiait Thomas, sur son compte Instagram qui fait la dernière, parce qu'elle nous a laissé utiliser quelques planches de sa BD. Donc c'est pareil, hein, à la radio je ne peux pas vous montrer la planche, mais je peux juste vous dire ce message. Alors, le 4 février 2026, tu publiais cette photo de toi sur ton compte Instagram accompagné de ce message. Alors la photo, on voit son dos et on voit des blessures dans son dos. Si j'avais pu choisir, j'aurais voulu recevoir toutes les balles de la guerre pour que mon peuple, lui, reste indemne. Il m'a fallu près d'un mois pour me libérer de cette question qui me rongeait la conscience. Pourquoi est-ce que j'ai été épargnée ? Nous connaissons tous ce vertige, mais cette brûlure de la conscience, il faut la garder vivante. Il arrive un moment où la vie se mesure à ce que l'on vend de son honneur. Certains ont été saignés, des amoureux de la liberté à qui l'on a volé la vie, mais jamais la dignité. Nous aussi, nous sommes encore vivants et nous restons debout pour la liberté et pour la justice. Et alors, comment ne pas finir cet article par une chanson du rappeur ?
Oui, on va vous passer effectivement comme pause musicale. Tu nous dis par contre l'éditeur pour ceux qui
veulent l'acheter. Alors oui, donc c'est La Vie.
Je l'ai là si tu l'as pas.
C'est Une Voix pour la Liberté, Tomaj Saheli, un rappeur iranien en résistance, et c'est aux éditions Delcourt.
Et c'est co-édité par Amnesty International.
Voilà, donc c'est vraiment... Et quand moi, les planches qu'on a pu avoir, ça donne vraiment envie d'aller voir. Et c'est aussi soutenir l'Iran.
Tout à fait. Et donc, et bien, puisqu'on vous parlait effectivement de cet artiste, on va vous passer, ce rappeur iranien, on va vous passer, grand héros de la résistance, on va vous passer un morceau tout de suite.
عشقم هنو عداق این کشور شبا پلکه مره رو پلکم من هنوز سرپام هنوز یاقی و بیپروام هنوز نرعید نرباب هنوز عق و تلخ نرفام منو نمی کنه خاموش گنداب بلکن نمیتونه بزنه کس افزار برپم فروشی نیست فریاد مظلوم قیمت نداره پناز قلم منو نمیتونی خفه کنی گفته بودم مگه رحمی بوده که دیگه مرده تو گفته این دو سال صدامو کشتی تو عفظ شدم گرافیتی شعار رو پرتر تو شهر من هنوز زندم هنوز بازی کنه رندم خواستید کورم کنید اما هنوز تیزن دوتا چشمم میبینم با ورق میزنید قلط و خون سالم در نمیاد اتوتون ببینید ببینیم و جارش میزنیم و نقاب برمیداره من رو تون هنو خودمم هنو خود مردمم هنو ات ترس میترسم اتونم پین کارگریام کف دست بارن هنوزم عاشق گل گندمم هنو برهنه پا منو خاک بازم هنوزم شاعر کف آسفالتم هنو سفت کمر ولی جاپان نر منو تق به توق بخوره باز داشتم من ولی جریان داره زندگی هنوز زنده است تو مونتا داریم جاری میشیم مثل رو هنوز جوشانن چشمه ها تا شده فیت تیلش داره تونتر میشه ارتاش بشنو داختر میشه ای صدا یعنی نزدیک شده انفجار ولی جریان داره زندگی هنوز زنده است تو مونتا داریم جاری میشیم مثل رو هنوز جوشانن چشمه ها تا شده فیت تیلش داره تونتر میشه ارتاش بشنو داختر میشه ای صدا یعنی نزدیک شده انفجار جوش خوردن همه استخونام جوهر قلم داره میشه روون قل میخورن کلمات تو سینم آتش فشان زیر گلوم قلم تیز هنو قلم تیغ هنو قلم اصله هست که بستم تیغ هرو جوری جر میده پرده ها میرن رو پشت برگه هاتونم دیدم با دیده درون پیله تو مغز میاد مغز پیله اینقدر جوونه دادیم داره سرسبز میشه سر سوخ حالید میکنه که مقصد چیه بدتر بشی بد برات بدتر میشه آره عقب سینم چاکتر آرومترم چون دیدم باستر قول دادم به خودم که میرم تا تش فنا من خودم هم جیگردارترم جر میدیم آسفالتو این خیابون آمال من روحی کماندو ای بزرگ شده یه پادگان جراحای شر با عمل تیمی شک میدیم بهش و نفس